Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Entente cordiale, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des faux amis de la gastronomie. Qu'on se rassure, il n'est pas question de faire ici le procès des mauvais restaurateurs, ces dignes émules de ce tricatel imaginé par le regretté Christian Fechner dans L'aile ou la cuisse, cette comédie immortalisée naguère par Louis de Funès et Coluche, dont la dernière scène se jouait précisément quai Conti dans cette vénérable maison. Nous allons plutôt passer en revue les mots issus du vocabulaire français qui ont traversé la Manche, retrouvant là-bas à la fois une vitalité nouvelle, mais aussi un sens différent de celui qu'on leur connaît habituellement en France. Alors commençons d'abord par le vieux mot de « mange-tout ». À l'exception d'une variété de pois ou de haricots dont la cosse est elle aussi comestible, ce nom masculin est à peu près complètement tombé en désuétude chez nous, où il tend à perdre le second sens qu'on lui connaissait naguère, à savoir celui d'une personne qui dilapide son bien. Il reste en revanche très populaire en Grande-Bretagne, où il désigne moins une personne dont l'appétit cesse de satisfaire de tous les plats qu'on lui propose qu'un infâme glouton. Quant à l'équivalent de notre haricot mange-tout, les Anglais le désignent sous le nom de sugar snap ou sugar pea. Je ne résiste pas à citer cet extrait d'une lettre écrite par la mère visiblement furieuse d'une romancière américaine dont un critique littéraire britannique avait raillé l'usage du mot « mange-tout » dans une nouvelle traitant de légumes, arguant du fait que les lecteurs américains ne pouvaient pas comprendre ce mot strictement inconnu outre-Atlantique. « Dear Sir, in a review of my daughter Tama Janovitz's most recent novel, By the Shores of Geechee Gumee, Sylvia Brownrigg objected to her use of the word mange-tout, stating that junky American restaurants serve a lot of fried food and salads of palest iceberg lettuce is not a revelation. That an English lord who has somehow pitched up in this place might not be understood when ordering mange-tout or aubergine is not a new joke. Mange-tout is not an English word, and certainly not a word in usage to the United States today. Your readers might like to know that while a great many inhabitants of the United Kingdom may use such language, it would not be understood here. In this country, we serve plain peas as well as sugar snap peas, which may be eaten whole. More readily available are snow peas, customarily served in Chinese cuisine. Qu'on se le dise. Rencontrons maintenant un autre faux ami de la cuisine britannique ou cuisine anglo-française, le nom masculin fouetté. Il n'a pas passé le channel qu'avec le sens qu'on prête généralement à ce pas de danse, abandonnant toute connotation gourmande. Dans le ballet classique, comme on sait, il y a différentes sortes de fouettés. Les fouettés en dedans et en dehors, les fouettés sautés, les fouettés sur pointe, dites demi-pointe, c'est-à-dire qu'on pique sur la jambe droite, on lève la jambe gauche devant et l'on tourne sur la pointe en laissant la jambe gauche tendue en l'air. On finit donc en arabesque sur la pointe. Comme l'explique un manuel d'initiation de l'art du ballet classique paru en Angleterre, « The famous 33 continuous fouettés in the coda of the Black Swan pas de deux from Tchaikovsky's Swan Lake are a bravura performance designed to express the strength and triumph of the character. » Citons maintenant un autre faux ami dont l'histoire est d'ailleurs passionnante, il s'agit du mot « demi-tasse ». Il ne désigne pas une tasse à demi remplie, mais ce qu'on appelle un mug, ces tasses hautes que les pionniers trimbalaient jadis avec eux en parcourant l'Ouest américain et qui, depuis, ont été adoptées aux États-Unis comme en Grande-Bretagne. Le mug permet de boire des cafés souvent peu relevés, de ceux que les Italiens désignent avec mépris sous le nom d'Americano, et que les Anglo-Saxons, eux, apprécient particulièrement. Depuis quelques années, la demi-tasse est souvent utilisée pour d'autres liquides, comme l'indique cet exemple tiré d'une édition du Times de 2004, dans laquelle le journaliste fait part du plaisir ressenti à goûter une délicieuse soupe à la citrouille. Before we launched into our lunch, we were presented with a demi-tasse veloutée of pumpkin. Enfin, dans l'étonnant voyage des mots français dans les langues étrangères, le journaliste français Franck Resplandy signale qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, la demi-tasse désigne aussi la tasse de thé qu'on offre après le dîner à ses invités. Citons maintenant casserole et gratin. La casserole désigne chez les anglo-saxons la poêlée de légumes et non l'ustensile dont on se sert pour les faire cuire, comme chez nous. On remarquera en revanche qu'on utilise aussi en France l'expression « à la casserole » pour justement désigner une fricassée de légumes. Le célébrissime chef britannique Gordon Ramsay, qui vient de reprendre le restaurant du Trianon Palace à Versailles, est l'auteur d'une recette fameuse, celle du « pigeon casserole ». C'est au début de l'automne qu'il l'inscrit généralement sur sa carte, ainsi qu'il l'expliquait l'été dernier dans le Sunday Times. Je le cite « The weather can still be quite warm at this time of the year, so, instead of serving mash with a wood pigeon casserole, I like to add a side of wilted spring greens to make the meal lighter. » Gratin est un mot que nous avions déjà évoqué dans le cadre de ce blog. Cité à l'époque par Consuelo Vanderbilt dans ses mémoires, The Glitter and the Gold, du temps où elle n'était pas encore Madame Jacques Balzan, mais encore la Duchesse de Devonshire. Comme en France, il désigne l'élite sociale et mondaine, ou, comme disent les Anglais, la crème de la crème. Cette expression est d'ailleurs si parlante pour les cadres britanniques que le Times l'a désormais placée en exergue de sa rubrique « Emploi ». Finalement, c'est dans l'expression « au gratin » qu'on renoue avec l'univers de la gastronomie. Un critique culinaire qui rendait compte de l'ouverture d'un restaurant par un ancien joueur de football tenait à rassurer comme suisse ses lecteurs sur la légèreté des mets proposés par cet ancien joueur de foot. Sur le menu, on pouvait lire « But no, you won't find poodle of gratin or German shepherd's pie on the menu ». Pour terminer, deux autres faux amis, l'expression « à la mode » et celle plus ancienne de « au goût ». À la mode ne signifie pas ici branché, ou comme diraient les Anglais, up to date, brand new, voire fashionable. Il s'agit tout simplement de l'art d'accommoder un dessert de crème chantilly ou même de crème anglaise, pardon, de custard. Pour ce qui est de au goût, la traduction n'est pas aisée, car même en France, le sens s'en est perdu. La seule homonymie possible est l'expression de « faisander », puisque le dictionnaire anglais lui-même donne cette définition en la faisant précéder de la mention « archaïque ».« A slight taint of decay, particularly in wild game meat, that used to be desirable, but is not generally desired anymore today ». On signalera que cette expression « au goût », d'origine médiévale, est toujours utilisée en Allemagne. C'était Entente Cordiale, l'émission qui revisite le vocabulaire français présent dans la langue anglaise.